20h, 21h, France Info, les informés.
Guillaume Caour.
Bienvenue à tous sur France Info pour les informer jusqu'à 21h. L'Aquarius est donc en route pour Malte. Finalement, quelques pays européens ont trouvé comment sauver les 141 migrants de l'association SOS Méditerranée. La France en fait partie. Alors ce plan, est-il du bricolage ? Ou est-ce que ce sont les prémices d'un nouveau système d'aide aux migrants ? Nous allons en débattre. Le chômage a baissé au deuxième trimestre, mais très timidement. Il y a un an, pourtant, vous en souvenez, nous en débattions dans les informés. Le nouveau gouvernement faisait passer par décret la loi travail, présentée comme ambitieuse. Alors pourquoi ? Pourquoi ça ne baisse pas plus ? François Hollande prépare-t-il son retour ? Séance dédicace en rafale et même un tract intitulé « Hollande 2022 ». Les informer ce soir avec Lilian Alemania, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Libération, Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Emery Doliger, communicant et cofondateur de Brutus TV.
Bonsoir.
Et Judith Vintraube, journaliste politique au Figaro Magazine.
Bonsoir. Bonsoir
et bienvenue à tous les quatre. D'abord, bien évidemment, l'actualité qui s'impose avec cette trentaine de morts à Gênes en Italie où ce viaduc s'est effondré il y a quelques heures. Alors bien sûr, il est trop tôt pour tirer la moindre conclusion sur l'origine de cette catastrophe. On ne peut faire que des suppositions. D'ailleurs, Alberto Toscano, tout à l'heure, sur France Info, journaliste italien, soulignait les doutes qu'il pourrait y avoir sur les infrastructures italiennes.
Dans d'autres situations, on a vu que le mauvais état d'infrastructures publiques était aussi la conséquence d'économies qui ont été faites par les entreprises qui les ont réalisées et qui parfois payaient des pots de vin à des pouvoirs politiques.
Alors est-ce qu'on peut remettre en cause la construction de cet édifice? Vous avez par exemple regardé Emmanuel Foulon tout à l'heure, vous avez retrouvé quelques cas, c'est ça, en Italie?
Oui, tout à fait. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, il est difficile de présumer des causes, mais on constate déjà d'une part que les États européens ne sont pas égaux en matière d'investissement dans les infrastructures routières. On constate par exemple que l'Allemagne, entre 2005 et 2016, investit un peu plus de 4% et 9% d'ici 2021. Pour donner un ordre d'idée, la France, elle est à plus de 0,6. Donc c'est 15 fois moins et l'Italie, c'est encore moins. Mais plus grave, alors c'est ça que j'ai regardé tout à l'heure, je constate que l'ANAS, c'est la société qui est en charge du réseau routier italien et des ponts, elle réclamait 2,5 milliards d'euros par an pour garantir la sécurité routière de l'infrastructure routière italienne. Aussi parce que 8 ponts se sont écroulés ces 3 dernières années, ce qui est quand même assez... 8 ponts, effectivement. Dans les 8 ponts, on a le pont de Fossano, on a le pont d'Ancome, qui est tombé sur une autoroute. On a un pont fin 2016 qui s'est écroulé entre Palerme et Agrigente 10 jours seulement après son inauguration. Donc effectivement, on pouvait s'inquiéter.
Ah oui, en effet. Donc, oui. Alors que là, c'est un pont des années 60. Là.
Tout à fait. Donc on peut comprendre aussi que l'ANAS réclamait 2,5 milliards. Alors le pire, c'est que finalement, sur les 2,5 milliards qui ont été réclamés par la société, l'ANAS en a reçu 450 millions en 2016 et a reçu 650 millions en 2017.
Donc selon vous, oui, on peut s'interroger. S'interroger d'après vous sur
ce qui vient d'être dit, ce sont des données factuelles qui sont reconnus par tout le monde et contestés par personne. Il y a eu gravement sous-investissement. Je préfère que ce soit Alberto Toscano qui mette en cause en plus l'honnêteté des opérateurs, parce que je ne me permettrai pas. mais un doute aussi demeure. Et au-delà, Salvini a déjà prévenu qu'il allait investir massivement et qu'en conséquence, il ne pourrait pas respecter les impératifs de maîtrise
du budget vis-à-vis de l'Europe.
Vis-à-vis de l'Europe, du budget italien. Donc, est-ce qu'il s'en sert? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a annoncé des investissements massifs en disant lui aussi que l'Italie avait gravement sous-investi. Au-delà de ça, moi je suis quand même frappée par le nombre de commentaires de spécialistes et notamment un expert de structure en béton de Gênes, qui enseigne à Gênes, qui met en cause des défauts de conception de l'ouvrage. Morandi, qui a fait le pont, n'en a fait que 3 au monde. Un s'est écroulé peu après, c'était au Venezuela, il s'est écroulé
Donc le concepteur de ce pont a déjà eu un autre pont qui s'est effondré.
Voilà, au Venezuela, il y en a un autre en Libye qui pour l'instant tient, on n'en sait pas plus. plus. Et ce que dit cet ingénieur italien, c'est qu'il y a bien une raison pour laquelle il n'y a que 3 exemplaires de ce pont au monde, c'est que le modèle n'est pas fiable.
Ouais, d'accord. Et en effet, il semblerait, d'après une dernière dépêche AFP, que on ait eu des problèmes de structure dès le début hein, sur cet édifice. Lilian Lemagna, qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, cet accident?
Ben, beaucoup de choses, il y en a dit. Il y a eu un problème. Et Michel Virloge, qui est le concepteur du pont d'Arrandi, ouais, du viaduc du Millau, expliquait que ça pouvait être aussi un problème de corrosion. Ce pont a été rénové il y a pas longtemps.
Ouais.
Donc c'est un problème sur ce pont-là.
Pour parler franchement, c'est l'Italie. On sait qu'en Italie il y a les mafias. Est-ce que vous pensez que c'est une caricature de s'interroger sur est-ce que clairement
si
est-ce que c'est un béton?
S'il y a un problème de conception.
Déjà, il peut y avoir plusieurs raisons. L'une raison n'exclut pas l'autre. Hein. Vous pouvez avoir de la corruption, et des pots de vin, et de l'argent détourné, et un défaut de conception.
Et de mauvaise qualité de matériaux.
Voilà.
Ouais. Mais en tout cas, toutes ces questions-là, très franchement, on s'est interrogé de faire ce débat, parce que c'est vrai que c'est très tôt, qu'il y a un drame humain, oui. Voilà, avec au moins 30 morts. Vous pensez que ce débat va prendre de l'ampleur dans les jours qui viennent ?
Forcément, ne serait-ce qu'à cause de l'ampleur des pertes humaines. On parle de au moins une trentaine et vraisemblablement, malheureusement, ce sera plus. C'est absolument dramatique que dans une démocratie moderne, des choses comme celle-là arrivent pour des raisons de toute façon liées d'ailleurs à sous-entretien. Hein. De toute façon, les Italiens ont pêché.
Et le débat va monter sur la question des infrastructures et des investissements et des contraintes budgétaires européennes, puisque le gouvernement italien va prendre l'exemple de sous-investissement sur les infrastructures pour dire on respecte pas les règles de Bruxelles.
En tout cas, comptez sur nous sur France Info ce soir et bien sûr demain matin pour continuer à alimenter votre réflexion avec des experts justement en structure, en bâtiment, pour alimenter vos connaissances. Vous êtes sur France Info, la suite des informés dans un instant. 20h10, toute l'info, Cédric Langrotte.
Un enchevêtrement de gravats et de blocs de béton, les images effarantes de ce viaduc effondré à Gênes en Italie. Au moins une trentaine de personnes sont mortes. Il y a également de nombreux blessés. Le pont construit dans les années 60 s'est effondré un peu avant midi. Tout à l'heure, il surplombe des voies ferrées et un cours d'eau à 45 mètres d'altitude. Plus de 1000 secouristes sont présents sur place et déjà 11 personnes ont été sorties vivantes des décombres. À Londres, le conducteur de la voiture Bélier ne coopère toujours pas avec les autorités. Ce matin, il a foncé sur une barrière de sécurité à proximité du Parlement. 3 personnes ont été blessées, dont une femme gravement. Les enquêteurs privilégient la piste terroriste. Un petit garçon de 4 ans est toujours entre la vie et la mort à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Il est tombé hier soir du 5e étage d'un immeuble, alors que sa mère se trouvait dans la cuisine de l'appartement familial. Et puis l'Espagnol Fernando Alonso a décidé de mettre un terme à sa carrière, en tout cas de pilote de Formule 1. Le double champion du monde en 2005 et 2006 va quitter les paddocks à la fin de cette saison.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Le périple de l'Aquarius dans les informés avec autour de cette table Lilian Lemagna de Libération, Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen, Emery Doliger, qui est cofondateur de Brutus TV, et Judith Vintraub, journaliste politique au Figaro Magazine. Et donc, les 141 migrants sauvés par l'Aquarius en Méditerranée débarqueront dans quelques heures finalement à Malte. Ils seront ensuite répartis dans 5 pays, la France en accueillera 60, le Portugal, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Espagne. Écoutez Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, invité de France Info il y a quelques minutes.
C'est un accord qui finalement rend un peu son honneur à l'Europe. C'est un accord qui montre que nous pouvons faire preuve de démonstration de solidarité concrète lorsqu'il y a une volonté commune. Et ce n'est pas par des slogans que nous pouvons régler la crise migratoire, mais lorsqu'il y a une crise humanitaire, on peut trouver des solutions pragmatiques et c'en est la démonstration. Il faut trouver une logique pérenne sur l'accueil des réfugiés en situation dramatique au niveau humanitaire, mais en même temps mener les actions nécessaires pour réguler les migrations, parce que le principe de base, c'est qu'il n'y ait plus de migration, qu'il n'y ait plus ce type de risque.
Est-ce que vous y voyez, vous aussi, le signe d'une coopération européenne réussie?
Ah.
Emmanuel Foulon.
Je trouve que, avec tout le respect que j'ai pour M. Le Drian, alors c'est vrai, c'est bien qu'il y ait une clé répartition. Je rappelle quand même que la France est 15 fois en dessous du quota de migrants acceptés au niveau européen. Donc, on peut quand même s'interroger. Donc, c'est bien qu'on ait réglé la question de l'Aquarius. C'est bien. Mais déjà, il y a deux chiffres qui m'interpellent. Le premier, c'est 66% des Français, lors de la première crise de l'Aquarius, étaient satisfaits que la France ne les ait pas accueillis. Et le deuxième chiffre qui m'avait beaucoup heurté, c'est 61% des Français estiment que la politique de Macron et de Colomb n'est pas assez dure en matière d'immigration. Donc évidemment que ça a durci le ton d'Emmanuel Macron, du président, qui n'est plus du tout sur les promesses électorales qu'il avait faites, et plus du tout dans cette optique qu'il avait par rapport à la politique migratoire à l'époque. Alors après, effectivement, il y a vraiment une responsabilité énorme au niveau européen. Les élections, si Salvini...
Mais est-ce que là, c'est une coopération réussie?
Alors ça, c'est un bel exemple de coopération. Maintenant, il faudrait surtout que la solution soit une solution solidaire plutôt qu'une somme des égoïsmes nationaux.
C'est pas une solution réussie, d'après vous, Émeric Delisle. Je vous fais un nom de la tête.
Oui, je dis non parce que c'est pas réussi, c'est contraint. C'est contraint par les opinions. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le capitaine de l'Aquarius. Ce mec est génial parce qu'il vient une première fois, il se fait refouler par tout le monde, les opinions haïssent le fait qu'il se fasse refouler, donc finalement il trouve une solution.
Vous pensez que les opinions haïssent qu'il se fasse
refouler? On l'a vu dans le bruit.
C'est contradictoire avec toutes les études.
Peut-être, mais n'empêche que la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois, tout le monde se met tout de suite autour de la table pour régler le problème. C'est que peut-être que les opinions qu'on
Parce que personne ne veut porter la responsabilité d'un drame humain.
Peut-être, mais surtout que le bruit qui avait été fait lors de la première Aquarius, on ne l'a pas dans le second Aquarius parce qu'ils sont tout de suite mis autour de la table. Tout de suite, il s'est passé quelque chose. Le seul qui a tenté une petite percée, c'est celui qui a dirigé le port de Sète en disant « je vais faire un peu de communication sur le sujet », mais il pouvait pas recevoir Jean-Claude Guesso. Et finalement, c'est Malte. Mais regardons juste les faits. C'est-à-dire que le temps de réaction de Aquarius 1 par rapport à Aquarius 2, des politiques...
Quand vous faites Aquarius 1, juste pour que tout le monde comprenne, c'est l'Aquarius au mois de juin qui avait tenté d'accoster aussi avec
le même capitaine. Regardons la technique du capitaine pour faire avancer les choses.
Là, je trouve qu'on n'est pas... Même si la France accepte d'accueillir 60 migrants, on n'est pas dans un partage raisonné. C'est ce qui avait été essayé lors du sommet sur l'immigration en juin et ce qui avait échoué du fait notamment du refus de l'Italie, des pays du nord de l'Europe, mais aussi du refus de la France d'accueillir sur son territoire des centres dont Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'arrivait pas à préciser, ce qui est toujours le cas, n'arrivait pas à préciser si c'était ouvert et fermé. Les variations entre le discours du candidat et les discours successifs du président dans ce domaine feraient perdre la boussole à n'importe qui. Je rappelle quand même qu'au moment du Lifeline, qui était ce bateau qui peu après Aquarius était également arrivé avec des migrants à son bord, Emmanuel Macron avait accusé les organisations humanitaires de complicité avec les passeurs, avait dénoncé leur cynisme. On n'avait pas du tout le même langage. Ce même Emmanuel Macron qui, en campagne, était pour des... Même pas en campagne, d'ailleurs, je dis des bêtises. En juillet, juste après son élection, en juillet 2007, était pour l'établissement de hotspots, y compris en Libye, et qui nous a expliqué au dernier sommet sur l'immigration que les demandes d'asile adressées à l'Europe devaient être traitées en Europe.
Il était justement question d'ouvrir des centres fermés sur les rives européennes pour accueillir les migrants, mais il se trouve que aucun pays européen ne s'est proposé jusqu'à présent pour en ouvrir sur son sol.
D'autant plus que quand Emmanuel Macron a dit ça, il a dit « mais la France, évidemment, n'en accueillera pas, elle n'est pas concernée ».
Ça, c'était au mois de juin.
Toutes les chances de son
côté.
Mais
on n'en a toujours aucun pays candidat.
Et l'Italie ne respecte pas l'accord qui a été signé en juin au Conseil européen.
C'est-à-dire
il devait y avoir à la fois une aide aux Italiens et la garantie que les migrants qui débarquaient dans ces navires, que ce soit des navires en perdition, que ce soit des navires affrétés par des ONG, soient ensuite répartis à travers
l'Union européenne. Non, c'était pas dans l'accord, il n'y avait aucune contrainte.
Il n'y avait pas
de clé de répartition.
La promesse des États de prendre à leur charge
une partie de l'argent,
ce qui peut être le cas là maintenant. Mais l'Italie dit, de toute manière, on n'ouvre pas nos ports. Donc, à partir de ce moment-là, Malte va devenir le port le plus proche des côtes tunisiennes et libyennes sur lesquelles vont arriver les bateaux. Et on va, après avoir un problème italien, on aura un problème maltais.
Absolument.
Et on n'aura absolument pas réglé le problème européen. Mais pour revenir sur Emmanuel Macron, il y avait un risque politique majeur là pour lui. 15 août, il est à Brégançon, les pieds dans l'eau de la Méditerranée, avec Brigitte Macron, sa femme, qui est en train de faire du jet ski. Si la polémique
si on fait le rapprochement
durer encore 24 heures avec l'Aquarius qui tournait pendant des jours en Méditerranée, on était parti pour une semaine de polémique. La gauche, que ce soit par le biais des communistes avec Jean-Claude Guesso, que ce soit d'autres porte-parole ou même le PS, déjà interpellé Emmanuel Macron pour qu'il trouve une solution. Là, ils sont
les poilons sont de sortie. Il y a eu cet après-midi une lettre ouverte co-signée par Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, mais aussi Martine Aubry, mais aussi Anne Hidalgo, mais aussi François Rebsamen. Autant de noms qui continuent à peser quand même.
Pour sortir
dans la
de l'aspect politique et parler de l'aspect purement concret, là, il va donc y avoir une mission française qui va partir sur place à Malte pour identifier ceux qui peuvent aspirer à ce droit d'asile. Ceux qui sont candidats à ce droit d'asile vont être sélectionnés. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Normalement, ils sont renvoyés d'où ils viennent.
C'est ça. Donc là, quand on dit 60 migrants vont arriver en France, ce n'est pas vrai. En réalité, certains vont arriver en France, d'autres on ne sait pas réellement.
En fait, il y a une clé de répartition, un peu comme... parce que les clés de répartition, elles n'étaient pas dans l'accord de juin, mais elles étaient... Il y a eu une première clé de répartition, c'était en 2016, si je ne m'abuse. Peut-être même la deuxième clé de répartition.
Signée par François Hollande.
Exactement, et qui n'a jamais été respectée. Donc effectivement, ici, c'est un peu un laboratoire pour le faire entre eux. C'est aussi un bon coup de Macron au niveau européen.
Donc là, ce qui se passe là, c'est un laboratoire.
Voilà, bien sûr. Et ça permettra de mettre en avant le travail de concertation des premiers ministres, des présidents qui sont impliqués là-dedans pour montrer, regardez, on donne le bon exemple. Ça permettra aussi de donner un signal fort envers tous ces pays de l'Est qui n'en veulent pas. Je rappelle par exemple qu'en Hongrie, il y a toujours zéro migrant, ou qu'en Slovaquie, la première réaction du Premier ministre, c'était de dire « Désolé, on ne peut pas recevoir de migrants, encore moins des musulmans, parce qu'on n'a pas de mosquée. » Vous vous rendez compte
à quel niveau
intellectuel
on est. Je vous rassure,
ils
ne veulent pas y aller non plus, les migrants.
Allez, les informés de France Info, la suite, c'est dans quelques instants. Il est 20h20, toute l'info avec Cédric Langrotte.
Plusieurs centaines de secouristes mobilisés à Gênes sur les décombres du viaduc de l'autoroute A10. Un peu avant midi, ce pont s'est effondré pour une cause encore inconnue. Projetant dans le vide voitures et camions qui se trouvaient dessus, les autorités italiennes évoquent un bilan provisoire d'au moins une trentaine de morts et de nombreux blessés. L'équipe de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta revendique la victoire du président sortant au Mali. Le second tour de la présidentielle avait lieu dimanche. Les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés. Dès hier, l'adversaire d'Ibeka annoncé qu'il rejetait les résultats de l'élection, dénonçant de la fraude. Bouba et Karis vont rester en prison. Le tribunal de Créteil devait examiner aujourd'hui leur demande de remise en liberté. Demande rejetée pour Karis. Bouba a finalement retiré la sienne. Les deux ainsi que 9 autres prévenus sont en détention provisoire en attendant leur procès début septembre. Début août, ils s'étaient violemment affrontés dans l'aérogare d'Orly. Et puis Lens peut être premier qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Les Lensois viennent tout juste d'inscrire un but. Premier match du premier tour qui a débuté à 18h30 et Lensois qui sont à Tours. Il y a 10 autres rencontres qui ont démarré à 20h. Enfin, Valenciennes et Lorient se retrouvent à 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Les informés de France Info avec Lilian Alemania, Emmanuel Foulon, Emery Doliger et Judith Vintraube. Nous poursuivons sur ce périple de l'Aquarius pendant que les Européens cherchaient une solution pour le bateau et pour ses passagers. Cette femme de Côte d'Ivoire attendait sur le bateau. Elle vivait en Libye quand le pays a basculé il y a quelques années. Elle a été vendue pour la prostitution. Elle s'est enfuie et voici ce qu'elle disait sur ce bateau.
Quand le Français se déplace pour venir en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, c'est écrit à l'aéroport Akwaba, ce qui veut dire bonne arrivée. Je le dis encore, aujourd'hui c'est l'Afrique qui a des problèmes, demain ça peut être vous les Français, vous les Européens. Arrêtez de dire qu'on ne veut plus des immigrants, ouvrez-nous les portes, on ne va pas exploiter toute votre richesse. Ouvrez-nous les portes, nous ne sommes pas venus violer vos lois.
Voilà, elle vient de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage?
C'est évidemment impossible de ne pas être ému par ce témoignage quand on connaît ce que vous dites de
son passé,
des épreuves qu'elle a subies. ça ne dit en rien quelle solution on peut apporter à ce problème de des Africains qui veulent quitter leur continent, à ce problème de 800 000 à 1 million de migrants qui stationnent actuellement en Libye et qui veulent également gagner l'Europe.
Et qui pour certains sont des migrants économiques et qui ne sont pas éligibles au droit d'asile.
Absolument. Ouais. Il faut pas confondre la tragédie individuelle, la tragédie humaine. Ne peut pas donner une politique.
Emmanuel Foulon.
C'est un témoignage qui permet aussi de mettre en perspective ce dont on est en train de parler, le côté d'humanité de ces gens. Enfin, il n'a pas fallu qu'un migrant monte seulement trois étages d'un balcon pour qu'on se rende compte que des migrants sont aussi des humains. Je voudrais aussi insister, et peut-être même un coup de gueule, sur ce que j'ai lu depuis ce matin. Des leaders de droite et d'extrême droite de différents pays qui ont aussi, eux, criminalisé l'Aquarius, qui ont criminalisé les ONG, comme l'ont fait Erdogan, Poutine et Orban dans leur pays respectifs. Mais pire encore, je rappelle quand même que à tous ces gens qui voulaient qu'on refoule ce bateau vers la Libye, je rappelle quand même qu'en Libye est pratiquée la vente d'esclaves, qu'il y a encore des camps de concentration qui ont été dénoncés. Je constate que la torture y est toujours appliquée. Donc comment on peut, en tant que démocrate à droite, à gauche, peu importe, mais comment on peut refouler des gens vers un pays qui viole les droits de l'homme de manière vraiment absolument scandaleuse.
C'est ce que disait aussi tout à l'heure Jean-Yves Le Drian, avec ce discours humaniste. Vous avez entendu ce qu'il disait, ça se terminait par comment mettre fin à cette immigration. Donc c'est quand même assez radical, c'est-à-dire que c'est, ils ne veulent pas d'immigration.
Oui, c'est le en même temps. Et,
oui, il y avait le en même temps d'ailleurs dans la phrase.
Tout à fait, ouais. et jusqu'ici, personne n'a trouvé la solution.
Emery Doliger.
Oui, c'est le point de vue de communication, parce que c'est mon dada. Ouais. C'est toujours, ils sont écartés entre le bon sens, l'humain, où on accueille les autres qui sont dans la détresse, et l'autre côté, le en même temps donc, la fameuse politique qui est contraint par des ensembles de règles nationales et européennes, et en permanence ils sont confrontés à ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la communication est un moment important. Sur l'Aquarius 1, ils ont tardé et il y a eu un retour de bâton parce que finalement le bon sens a pris le pas en termes de communication sur la politique, alors que là ils ont tout de suite géré la chose. Ils ont été, donc l'Europe a été contrainte de réagir vite, et c'est pas
qu'une histoire de Brégançon. C'est quelques coups de fil. C'est-à-dire que c'est pas ça qui fait une stratégie à long terme.
Je suis entièrement d'accord.
Donc on est quand même en train de construire une Europe à deux vitesses.
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose de réussi, c'est quelque chose de contraint.
Vous êtes d'accord avec ça, Lilian Emmanuel? Ouais, on est en train de construire une Europe à deux vitesses en matière d'accueil des migrants?
Complètement, puisque c'est quelques pays, dont trois importants qui sont l'Espagne, l'Allemagne.
C'est toujours les mêmes.
Et la France qui se sont mis d'accord pour en prendre une partie. Donc, et le problème maintenant devient l'Italie depuis le changement de gouvernement et un ministre d'extrême droite.
Je souriais parce que vous disiez qu'on construisait une Europe à deux vitesses, mais ça fait assez longtemps qu'il n'y en aura pas de vitesse, pas seulement en termes de migration, mais effectivement en termes de migration, c'est assez évident. Souvenez-vous de l'exemple slovaque, les Polonais, les Hongrois ne reçoivent quasi personne pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, ce sera de voir comment ça va tourner au prochain Conseil européen, fort de cette expérience-là. Tout à l'heure, je disais que finalement, qui va s'en sortir grandi, heureusement, les gens qui sont sur l'Aquarius, c'est ce que je souhaite ardemment, mais évidemment, Emmanuel Macron, parce que il ne faut pas oublier le poids énorme qu'il a et les espoirs qu'il incarne au niveau européen. Je ne parle même pas des citoyens, mais je parle aussi des différents groupes politiques européens. Son arrivée en 2019, il est encore perçu comme un messie.
Encore aujourd'hui?
Encore à tort ou à raison. Mais beaucoup de gens attendent son arrivée, ne fût-ce que pour faire bouger certaines lignes à droite ou à gauche.
Sauf que son discours sur les questions migratoires est totalement différent aujourd'hui avec celui qu'il a porté pendant la campagne.
Et c'est pour ça que l'épisode
lui a permis de récupérer une très grande partie de l'électorat de gauche qui était déçu du hollandisme.
Tout à fait. Et donc les élections européennes vont aussi être un marqueur intéressant, parce qu'on va voir où est-ce qu'il va mettre le curseur en matière migratoire d'une part, et puis d'autre part, effectivement, aujourd'hui il a marqué des points. Donc en fait c'est pas que lui entre parenthèses, hein, mais tous ceux qui ont négocié cet accord aujourd'hui ont réussi à aller plus loin en un an que le Conseil de l'Europe.
dernier point, ce qui est pas étonnant, parce qu'on n'a pas du tout entendu.
Oui, c'est assez paradoxal.
C'est assez fort.
C'est assez paradoxal, mais il ne faut pas toujours être à l'avant de la scène pour remporter la mise.
Oui, je persiste à croire qu'il n'a pas marqué de points parce que c'est du bricolage et on a refilé à Malte en fait ce dont on ne voulait pas, même si on va prendre 60 de ces migrants qui étaient sur le bateau. Quand on fait la liste des pays que Lilian vient de faire qui accueillent, c'est un peu rapide d'y mettre l'Allemagne parce que depuis les élections en Allemagne où Angela Merkel a chèrement payé sa politique de la main tendue, son ministre de l'Intérieur bavarois Seehofer a imposé la création de ce qu'ils appellent des centres d'ancrage et qui sont des centres fermés, alors là pour le coup, d'où les migrants, les demandeurs d'asile ne sortent pas tant que leur dossier n'est pas instruit.
Donc pendant des mois.
Voilà.
Un accord conclu entre le ministre de l'extrême droite autrichien et Salvini de l'autre côté.
Allez, la suite des informés, c'est dans quelques instants. Hollande 2022. Vraiment, il y a des vrais tracts, il y a de faux tweets, et il y a aussi la promo du livre, quasiment au pied du fort de Brégançon. Nous allons en débattre dans quelques minutes. Le marché du travail également, il est atone avec ses résultats trimestriels tombés ce matin. Pourquoi, alors que la loi qui a été promulguée il y a un an devait redynamiser notre marché du travail? Les informer, la suite dans un instant. Et les infos, bien évidemment, tout de suite. D'abord, c'est la météo, Jean-Pierre Hameau.
Demain matin, malgré des conditions anticycloniques, le ciel sera très nuageux des Pays de Loire à la Bretagne, de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France. À noter la présence de nombreux brouillards de l'Aquitaine au Poitou-Charentes se dissipant rapidement sous l'action du soleil. Et partout ailleurs, votre matinée sera déjà très bien ensoleillée. L'après-midi, le soleil va gagner du terrain pour briller généreusement dans la plupart des régions. Seuls les bords de Manche conserveront un ciel nuageux à surveiller une évolution orageuse au-dessus de la montagne Corse. Les températures maximales seront un peu juste le long des côtes de la Manche et voisines de 22 degrés. Elles seront plus agréables ailleurs et comprises entre 25 et 30 degrés et jusqu'à 33 dans le sud.
Merci Jean-Pierre, vous êtes sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Toute l'info, Cédric Langrotte.
Giuseppe Conte est arrivé à Gênes, en Italie. Déplacement en urgence du président du Conseil après l'effondrement d'un viaduc de l'autoroute A10. Les images sont impressionnantes, elles parlent d'elles-mêmes. C'est toute une portion du pont qui a cédé, entraînant dans 45 mètres de vide les voitures et camions qui se trouvaient dessus. Il y a au moins une trentaine de morts et de nombreux blessés graves. Bilan toujours provisoire, fait cet après-midi par le ministre de l'Intérieur italien. Les secours sont évidemment mobilisés pour tenter de trouver des survivants sous les décombres. Une dizaine de personnes ont ainsi déjà pu être secourues. Signe du savoir-faire des secouristes italiens, bien rodés notamment par les risques de tremblements de terre qui se produisent dans le pays. C'est ce qu'explique Patrick Ergen, le vice-président de la Fédération des sapeurs-pompiers français.
Ce sont des gens qui sont spécialisés en sauvetage d'éblément. Vous savez, les Italiens sont très organisés. Ils ont des secours très organisés. Ils ont une grosse expérience des tremblements de terre parce que les secours qui sont en train de se déployer, ils utilisent les mêmes techniques que face à un tremblement de terre. L'accident est très rare et très spectaculaire, mais rechercher des personnes ensevelies, c'est ce qui se fait habituellement après un tremblement de terre. Donc les Italiens savent faire, savent bien faire. Alors, probablement plus de 200 personnes qui seront impliquées dans ces secours. Je serais surpris au demeurant que ce chiffre, qui est un chiffre approximatif, en reste là. Il y aura énormément de secours. Malheureusement, je ne sais pas si on trouvera beaucoup de personnes encore vivantes.
La France est prête à apporter tout le soutien nécessaire, dit Emmanuel Macron sur le réseau social Twitter. Si les causes du drame ne sont pas encore établies, la vétusté du pont pourrait être en cause. Il a été construit dans les années 60 et des travaux de consolidation de sa structure étaient en cours. À Londres, les enquêteurs tentent toujours de déterminer l'identité et le mobile de ce jeune d'une vingtaine d'années qui a foncé ce matin dans la foule près de l'abbaye de Westminster. La voiture s'est encastrée dans une barrière de sécurité du Parlement britannique après avoir blessé trois personnes, dont l'une grièvement. Les enquêteurs privilégient la piste terroriste, mais le conducteur qui a été interpellé ne coopère pas avec les policiers. La France va accueillir 60 des migrants de l'Aquarius dans le cadre d'un accord entre plusieurs plusieurs pays européens. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée va pouvoir accoster dans un port de l'île de Malte. La Valette a finalement changé son fusil d'épaule après avoir un temps refusé d'accueillir le bateau. L'Aquarius a secouru 141 personnes vendredi au large des côtes libyennes et cherchait depuis un port européen où accoster. Israël va rouvrir demain le seul terminal de transit des marchandises vers la bande de Gaza, en tout cas si le calme observé ces derniers jours dans l'enclave palestinienne se maintient. Ce terminal, seul point d'entrée des denrées dans la bande, est fermé à la plupart des marchandises depuis début juillet, provoquant des pénuries, notamment de carburant. Plus de 500 chefs annoncés pour l'hommage à Joël Robuchon, prévu vendredi à la cathédrale de Poitiers, parmi eux de grands noms français et internationaux de la gastronomie. Le public pourra également accéder à l'intérieur de la cathédrale et le parvis sera sonorisé. Puis Lens, premier qualifié pour le second tour de la Coupe de la Ligue, les Lensois qui sont venus à bout de Tours à la 93e minute de la rencontre. 10 autres matchs ont débuté à 20h. Il reste une dernière rencontre à 20h45 entre Valenciennes et Lorient.
Merci beaucoup Cédric, à tout à l'heure.
20h-21h, les informés.
Guillaume Caour.
Les informés de France Info avec Judith Vintraube du Figaro Magazine, Émeric Deligé de Brutus TV, Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen, et Lilian Alemania de Libération. Nous poursuivons nos débats avec Hollande 2022. Comme s'il voulait l'asticoter, François Hollande fait cet été des dédicaces de son livre aux abords du fort de Brégançon où se trouve Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est à Cassis, donc à 80 km. Alors vous allez d'abord entendre deux personnes qui sont venues à sa rencontre pour se faire dédicacer le livre, et puis ensuite vous allez entendre François Hollande.
S'il revient en 2022, je pense que je ferai partie des gens qui le soutiendront.
Je lui ai dit « revenez ». Il n'a rien répondu, mais je pense qu'il a eu un grand sourire. Il a dû se dire que tout reste possible.
Bon, je suis lucide. Cette sympathie, elle est d'autant plus forte que je ne suis plus aux responsabilités du pays. Il y a des comparaisons qui se font, mais je ne veux pas en tirer plus de conclusions que cela.
Alors, un petit tour de table sous forme de quiz, si vous voulez bien. On est en été, c'est les vacances. Choix A, c'est pathétique d'en arriver à multiplier les séances dédicaces pour exister. Ou choix B, c'est un moyen comme un autre d'aller au contact des Français. Lilian Alemania, choix A ou B ?
Choix B.
Choix B.
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 C.
Ah, mais... voilà, vous allez nous dire après ce que c'est.
Ouais.
Et Judith ?
Sans opinion sur ce.
Sans opinion ? Ah, bah d'accord.
Choix non, Z, non, je n'aime pas votre alternative. Je crois
ah bon
que François. Je crois que
donc c'est choix C pour vous aussi.
Non, je sais pas ce que c'est que mon choix C. Donc,
alors, allez, honneur aux dames. C'est dans aux dames, Judith.
Si François Hollande fait ça, c'est d'abord parce qu'il est profondément blessé de la façon dont son bilan est considéré. Il est en gros présenté comme le président le plus catastrophique de la Ve République. C'est une blessure intime d'autant plus vive qu'il considère c'est ce qu'il a dit quand il déclare que l'histoire n'est pas finie, il considère qu'on l'a empêché de finir l'histoire, alors que c'est lui qui a renoncé à soumettre son bilan à l'appréciation des Français en briguant un second mandat. Bon, peu importe. En tout cas, il en retire une aigreur, une amertume, un sentiment d'injustice, évidemment décuplé par le fait que c'est sa créature, Emmanuel Macron, qui l'a privé d'un second quinquennat. Et je crois que dans la déclaration que vous venez de passer, quand il dit la comparaison joue, c'est à ça qu'il pense.
Émeric Deligé, choix C, c'est quoi ?
Bah, vendre son livre.
Ah oui.
C'est la meilleure solution pour vendre son livre. Aller là où il peut faire un peu de buzz, un peu de communication,
vous
un peu de bruit.
Il a vraiment besoin de vendre ce livre ?
Oh bah, s'il peut être le président qui a vendu le plus son livre post-présidence,
c'est toujours un trophée. C'est pas une manière pour vous de mettre une petite ligne là, déjà, pour préparer un éventuel retour ?
Vous y croyez vraiment ?
Ah, je sais pas, je vous pose la question.
Je sais pas, enfin, 64 ans, on en a un qui a 40 ans là, il y a un changement de méthode, changement d'énergie, changement de façon de faire.
Ce genre de personnalité, ça s'arrête jamais, non ?
Je suis d'accord, on l'a bien vu avec Sarkozy qui a essayé de faire un petit coup de revenez-y la dernière fois, mais... j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste de l'intuition, mais qu'on est peut-être passé à autre chose.
On est passé à autre chose, mais à gauche, il y a un vide. Il y a un vide. Et il occupe totalement ce vide. Il y a un déficit de personnalité au Parti Socialiste, si bien qu'ils sont peut-être obligés d'aller en Belgique.
Et donc vous dites que l'animal politique...
Chef de file aux européennes. il occupe ce vide. Et comme l'a très bien dit Judith, il veut que son bilan soit
reconnu. Est-ce qu'il envisage une suite de carrière politique ?
Il ne sait pas lui-même, je pense.
Vous pensez qu'il ne le sait pas ? Mais ouais, que...
ça, dé-
C'est ce que disent les gens qui le voient régulièrement. Hein. C'est qu'il ne s'interdit rien. Dans un premier temps, son objectif est plus tourné vers la réhabilitation de son bilan que vers la préparation de l'avenir. Mais l'un n'exclut évidemment pas l'autre.
Et quand on voit ses tracts, son équipe n'a absolument rien à voir avec ses tracts, dit-elle. Les tracts Hollande 2022 avec ses propos. Qui a tenu face aux attentats? Qui a rétabli les comptes publics? Qui a inversé la courbe du chômage? Ça revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire de reconnaître en quelque sorte son bilan. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui montre aussi que les électeurs de gauche commencent à reconnaître justement ce bilan?
Écoutez, c'est un mouvement extrêmement marginal. Il y a même des gens qui soutiennent l'ancien patron de Radio Courtoisie, Henri de Lesquin, qui se sont mêlés de cette affaire-là en faisant eux aussi du Hollande revient, Hollande 2022. Mmh. Alors, pour démêler l'intox de l'info, c'est très difficile.
Oui, et puis effectivement, dans l'espace, il n'y a personne. Enfin, ok, il a écrit un livre, mais s'il suffisait d'un livre à succès pour devenir président de la République, on aurait comme président de la République en France, Musso, le patron de La Redoute ou des Trois Suisses. Donc, ça ne suffit clairement pas. Ouais. Mais après, il y a tout un fantasme parce qu'effectivement, il n'y a plus personne dans cette gauche-là. Et il n'y a personne pour faire revenir les militants socialistes de chez Mélenchon, certains qui pourraient dire qu'ils auraient peur de son son feeling anti-européen. Il n'y a personne pour faire revenir les militants socialistes de chez Macron parce qu'ils ont compris que ni de droite ni de gauche, c'était surtout ni de gauche. Donc, il faut de nouveau quelqu'un chez les socialistes, et donc effectivement que ça peut fantasmer. Je trouve ça mignon, mais après
mignon,
oui, c'est mignon parce que lui, je pense qu'il n'a jamais enterré le projet, que quelque part ça restera toujours en lui. Mais on est dans une vague en Europe de manière générale de dégagisme où les gens se lassent très très vite, et en plus les gens se lassent quand il n'y a pas de solution. Vous avez en France un président qui a 40 ans, je dis pas qu'il va rester des années et des années, mais le fait qu'il soit arrivé, c'est vraiment le symbole du dégagisme, et il mène en plus une campagne. La campagne, ça a été ni de droite ni de gauche, je le rappelle. Hollande a fait un peu ça. Il a fait
du centre. Et de gauche.
Et finalement, il a fait de droite et de gauche et il s'est retrouvé dehors pour ça.
Et le bilan, justement, de François Hollande, nous allons l'évoquer en demi-teinte dans un instant avec ce marché du travail à tonnes. Et si finalement, François Hollande avait plus fait baisser le chômage, nous allons y revenir dans les informés. Il est 20h40. Toute l'info, Cédric Langrotte.
Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie en 2018. La colère du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini après l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes sur la côte Ligure. Le pont a cédé peu avant midi. Au moins une trentaine de personnes sont mortes. Bilan toujours provisoire. Les autorités évoquent de nombreux blessés graves. Les opérations de secours vont se poursuivre toute la nuit et sans interruption. Ibrahim Boubacar Keïta revendique sa victoire de manière large et confortable. Avant même le résultat officiel de la présidentielle malienne, le président sortant assure qu'il a remporté le scrutin. Hier, son opposant Soumaïla Cissé a annoncé qu'il rejetait à l'avance ce résultat, dénonçant des fraudes. Booba et Kaaris vont rester en prison, les deux rappeurs ainsi que quatre autres prévenus demandaient leur remise en liberté. Demande rejetée pour Kaaris. Booba a pris dans la foulée la décision de retirer la sienne. Tous deux sont en détention provisoire dans l'attente de leur procès début septembre après cette violente bagarre le 1er août à l'aéroport d'Orly. Et puis Ronaldo va mieux et a pu rentrer chez lui. Le footballeur brésilien, gloire de la fin des années 90, était hospitalisé sur l'île espagnole d'Ibiza où il possède une maison. Une hospitalisation notamment en soins intensifs depuis la fin de la semaine dernière.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Quatre informés, Judith Vintraube du Figaro Magazine, Emery Doliger de Brutus TV, Emmanuel Foulon de la délégation socialiste belge au Parlement européen et Lilian Alemania de Libération. Le marché du travail atone. Le taux de chômage a baissé de 0,1% au deuxième trimestre. C'est moins qu'attendu. Il avait même progressé au premier trimestre. Pourquoi ça ne baisse plus, Lilian Alemania?
Ça ne baisse plus parce qu'on a une croissance qui est moins importante qu'attendu. Le gouvernement a prévisionné 2% de croissance pour 2018. On ira à peine à 1,6, 1,7.
Ouais.
Donc ça a des conséquences derrière sur le marché du travail. Mm-hmm. Donc on peut chercher des explications, que ce soit sur la loi travail, version Macron.
Quand j'ai entendu ce chiffre-là, j'ai pas pu m'empêcher de me remémorer les débats que nous avions à cette même table il y a un an sur la loi travail qui devait fluidifier
modifier le marché du travail et finalement solutionner par ricochet l'emploi.
Je mettrais plutôt le compte sur la politique fiscale, moi, du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a pris des mesures qui, sur tout le premier semestre, ont plombé la consommation des ménages, que ce soit la hausse de la CSG, que ce soit des hausses d'impôts sur les produits énergétiques, donc à la pompe, le prix à la pompe a également augmenté du fait du contexte international. Mm-hmm. Donc et c'est un des moteurs puissants normalement
de la consommation. On consomme moins, la croissance est moindre, du coup il y a moins d'embauches.
Exactement.
Mm-hmm. J'ai dit de Vintraube.
Il y a aussi des causes structurelles. Mmh. Pour que la consommation reparte, donc pour que le chômage baisse, il y a une solution très simple, c'est d'arrêter de ponctionner les entreprises et les ménages, donc de baisser les prélèvements obligatoires.
Mais c'est ce qui s'est passé.
En baissant les dépenses publiques. Les dépenses publiques n'ont pas été baissées, la Cour des comptes le remarquait encore en juin dernier. 60 milliards d'économies ont été annoncées, promis, au moins 60 milliards par Emmanuel Macron. Là, pour l'instant, ni Bruno Le Maire ni Gérald Darmanin n'ont donné d'indications sérieuses sur les secteurs dans lesquels les économies allaient être faites. Mm-hmm. Je vous rappelle que le plan de révision du périmètre de l'intervention publique Cap 2022, qui était censé sortir, a été tellement repoussé que finalement il ne sortira plus. On connaît quelques mesures qui sortent par-ci par-là. Il n'y a pas de plan d'ensemble de réduction des dépenses publiques. On est toujours les champions d'Europe, donc il n'y a aucune raison que le chômage ne continue pas chez nous à se maintenir ou à baisser beaucoup moins vite que chez nos voisins.
Les courbes baissaient plus sur la fin du quinquennat de François Hollande que finalement depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, et pourtant lui en tient pas rigueur. C'est parce que lui n'a pas pris d'engagement chiffré et n'a pas pris de date d'échéance.
Oui, parce que ça baisse quand même. Ça a quand même baissé.
Mais c'est timide.
Même si au premier trimestre, il y a une nouvelle augmentation, ça baisse. Mais la question des baisses pour les entreprises, on parle de la baisse des dépenses publiques, mais les baisses de cotisations sociales, que ce soit pour les entreprises, elles en ont profité sur tout le quinquennat Hollande. Ouais. Elles vont en profiter l'année prochaine doublement, puisqu'en 2019, ils vont avoir une transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de cotisations sociales.
On peut pas dire que ça fasse des miracles.
Non, mais la preuve, c'est qu'il y a sûrement non pas un problème d'offre, comme on l'a dit sous le quinquennat Hollande, mais peut-être un problème de demande avec des retraités qui ont eu des hausses de CSG, des salaires qui, pour la première fois depuis 2011, progressent beaucoup moins que l'inflation. Donc voilà, il y a peut-être un problème de demande qui plombe aujourd'hui la consommation, qui est un des gros moteurs de la croissance française.
Aymeric Deligier ?
Peut-être qu'on ne leur en tient pas rigueur parce qu'on en parle moins. Avant, on faisait gorge chaude tous les mois pour expliquer qu'il y avait
maintenant,
baisse.
Maintenant, c'est tous les trimestres.
Maintenant, c'est tous les trimestres. Donc, ça dilue un petit peu le fait qu'on est un peu tendu sur le sujet. Ça, c'est peut-être un des éléments. C'est moins visible. Un des autres éléments, c'est que le chômage des jeunes, alors que tous les autres est plutôt atone, comme vous le disiez, mais le chômage des jeunes continue de baisser, encore moins 0,6. C'est pas dingue, je suis d'accord avec vous, mais ça continue de baisser, ce qui donne une petite couleur plutôt plutôt pas sympathique, mais qui permet de pas forcément tomber à bras raccourcis
sur le gouvernement. Sur Emmanuel Macron.
Donc ça fait peut-être déjà deux raisons qui font que on y va doucement. Et peut-être qu'il y a une tendance plus large depuis deux ans, Hollande compris, où on montre effectivement la tendance à la baisse.
Oui, Emmanuel Foulon. Et puis je pense qu'il y a rien à faire. C'est le cas dans tous les pays européens. Il y a toujours une tolérance quand un nouveau pouvoir se met en place.
En plus.
Surtout ici, avec vraiment un changement de cap fondamentalement différent. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, on attend de voir.
Vous pensez qu'il y a encore de la marge de manœuvre de tolérance?
Oui, je pense qu'après aussi peu de temps, même si pour certains ça peut paraître long, mais aussi peu de temps après l'élection présidentielle, je pense qu'effectivement, il y a des mesures qui doivent encore se mettre en place. Mais ça va devenir un peu plus les semaines passent, plus ça va devenir compliqué pour le président Macron, pour plein de raisons. La première, c'est que dans son programme électoral, effectivement, il se basait sur une croissance beaucoup plus haute potentiellement. Elle est freinée, on a l'inflation. Effectivement, les mesures qui ont été prises aussi sur le court terme sont un peu délicates. On a parlé de la CSG, on a parlé des taxes sur les carburants.
Le contexte international.
Le contexte international particulièrement, parce qu'effectivement, le pétrole coûte beaucoup plus cher, parce que la tension géopolitique est énorme et les conséquences économiques aussi. regardez.
Parce que vous avez un Donald Trump imprévisible qui fragilise un certain nombre d'économies mondiales.
Regardez rien que le tweet qu'il a claqué sur la Turquie, ça a fait dévisser la monnaie turque, mais derrière la monnaie polonaise, la monnaie hongroise, l'euro,
le
centre boursier, la dette italienne, le centre boursier japonais, le centre boursier chinois.
Et ça a un impact sur le chômage français.
Alors effectivement, à rebond, oui, parce que vous avez moins de croissance. Et si vous avez moins de croissance, parce que ça coûte plus, enfin si votre pétrole coûte plus cher, fatalement votre système économique est ralenti de manière générale. Et donc effectivement, il va avoir du mal à remplir ses mesures comme promise il y a un an et demi.
Judith Vintraube.
Oui, je suis pas persuadée qu'il y ait une véritable rupture entre la loi El Khomri et la réforme du code du travail de Muriel Pénicaud. Il y a une différence de degré. Il n'y a pas une rupture. En fait, ce tournant avait été engagé dès lors que Manuel Valls avait été nommé premier ministre. En fait, il avait même été engagé avant, mais François Hollande ne l'avait pas
donc,
dit.
Donc, il n'y a pas de rupture politique d'effet sur...
Il n'y a pas de rupture dans la stratégie économique.
Macron ministre voulait déjà aller plus loin.
Absolument.
Donc, il n'y a pas de rupture.
On va plus loin dans la même direction, c'est-à-dire qu'on ne va toujours pas dans ce qu'ont fait nos voisins européens, parce qu'il y a une chose aussi dont on va pâtir, même si Emmanuel Macron a eu l'intelligence de ne pas s'engager sur un chiffre du chômage, sur un chiffre de baisse. Il y a une chose dont on pâtit énormément, c'est la comparaison avec nos voisins. Ouais. Rendez-vous compte qu'en Grande-Bretagne, le chômage est à 4% en plein Brexit, qui est quand même pas le contexte économique le plus...
Avec des emplois, hein,
le plus favorable. Oui, alors ça, on fait toujours...
Faut savoir si on veut ça aussi en France.
C'est le numéro du « je préfère être travailleur chômeur en France que travailleur pauvre en Italie ou en Allemagne » est malheureusement démenti par des études assez précises dont on dispose qui croisent le niveau de prélèvement obligatoire et le niveau de satisfaction. Hein. C'est des études de l'OFCE qui nous disent qu'avec des dépenses bien supérieures, ça s'appelle Better Life. C'est un indicateur régulier, l'OFCE, avec des dépenses bien supérieures en matière de santé, en matière de lutte contre le chômage à tous ses voisins. La France n'occupe que le 12e rang en matière de santé en termes de satisfaction du service rendu par l'État.
Vous voulez dire que la satisfaction client, entre guillemets, est moins
en plus,
bonne en
c'est
France
ce que disait Macron
en disant
c'est tout ça que coûte à pognon dingue à propos des aides
absolument
sociales.
Absolument d'accord, si ce n'est que la comparaison avec l'Angleterre, parce que c'est quand même le pays qui a inventé le paiement à la minute et le travail à la minute, donc et avec une couverture sociale assez scandaleuse. Par contre, effectivement, c'est vrai.
Mais vous avez lu ces études ? Alors les Anglais sont idiots, ils répondent qu'ils se sentent mieux et ils ont tort.
Pas nécessairement, mais il y a plein de raisons pour lesquelles vous répondez à un sondage, parce que vous êtes quelquefois même content de pouvoir bénéficier d'un job à la minute quand vous êtes vraiment en dessous de tout et que vous n'avez pas de couverture derrière. Mais effectivement, les chiffres au niveau européen, et là je vous rejoins totalement, ils sont à leur taux le plus bas depuis 9 ans. Donc on est à 8,3% sur l'ensemble de l'Europe. Ça n'a jamais été aussi bas
depuis
2009.
Donc en tout cas, le chômage baisse moins en France qu'ailleurs et la croissance est moins forte en France qu'ailleurs.
Mais je prendrai le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté en France est inférieur à celui de l'Allemagne, par exemple.
C'est ça.
Allez, on poursuit les informés. Dans quelques instants, nous allons aller en Tunisie avec cette loi en faveur de l'égalité homme-femme qui suscite beaucoup de débats. Nous allons y revenir dans les informés de France Info. 20h50, toute l'info, Cédric Langrotte.
Aucune victime française n'a pour l'instant été identifiée à Gênes en Italie, mais les recherches sont toujours en cours. À la mi-journée, un viaduc de l'autoroute A10 s'est effondré dans le vide, 45 mètres plus bas. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts et de nombreux blessés. La vétusté de l'ouvrage pourrait être en cause. Des travaux de consolidation étaient en cours. À Londres, des perquisitions en cours en ce moment après l'attaque vraisemblablement terroriste à la voiture Bélier de ce matin près du Parlement. Une voiture est allée s'encastrer dans une barrière de sécurité après avoir foncé sur la foule. Trois personnes ont été blessées, dont une femme grièvement. Le conducteur, un jeune d'une vingtaine d'années, a été arrêté. Il ne coopère pas avec les enquêteurs. Malte va accueillir le navire Aquarius et les 141 migrants qui se trouvent à son bord. Le navire erre depuis vendredi en Méditerranée pour trouver un port où accoster. La France annonce par ailleurs qu'elle va recueillir 60 de ces migrants dans le cadre d'un accord signé par 5 pays de l'Union Européenne. Et puis un mouvement de foule sans gravité, heureusement, cet après-midi à Toulouse, sur la place du Capitole. Des passants ont cru entendre une fusillade dans le parking qui se trouve sous la place. C'est en fait une bousculade qui a fait bouger une pièce métallique et qui a provoqué ce bruit.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Suite et fin des informés avec Lilian Alemania, Emmanuel Foulon, Emery Doliger et Judith Vintraube. Avec ce débat auquel nous tenions tous les cinq, parce que c'est un signe qui est très encourageant en matière d'égalité homme-femme, c'est le président tunisien qui a annoncé qu'il allait proposer dans quelques semaines une loi en faveur de l'égalité homme-femme en cas d'héritage. C'est une première dans un pays arabe aujourd'hui. Selon les règles du Coran, vous me dites si je me trompe, une femme ne reçoit que la moitié d'un homme en cas d'héritage. C'est, ça. C'est bien ça.
Un statut parental égal.
Oui. Ouais.
Un lien de parenté égal. C'est extrêmement important parce que je rappelle que la Tunisie est le pays qui a rejeté la charia dans sa loi fondamentale en 2014. On a parlé au début de l'Aquarius et des problèmes de migration. C'est intimement lié, le développement démocratique des pays arabes et africains et les problèmes de migration. C'est un espoir. La Tunisie est présidée par un homme, le président Essebsi, qui a 91 ans, ce qui n'est pas un signe de force, mais son atout, c'est qu'il va de toute façon quitter le pouvoir en 2019.
C'est étonnant d'ailleurs pour un président de 91 ans de prendre une décision aussi moderne.
On est en Tunisie, on est dans le pays de Bourguiba. Bourguiba qui avait interdit le voile aux petites filles à l'école et dans l'administration. Et je crois que c'est encore Bourguiba est encore un mythe dans les esprits tunisiens. Et si Essebsi veut marquer l'histoire, il le fera comme ça. Alors ce serait un progrès énorme parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Ça ne sera pas un progrès, si ça a lieu, ce que je souhaite de tout mon cœur, ça ne sera pas un progrès définitif, parce qu'il reste encore de grosses inégalités. Par exemple, ce statut de chef de famille qui est exclusivement dévolu à l'homme. Par exemple, le fait que la femme n'a pas l'autorité parentale. Donc il y a quand même des énormes points noirs, sachant que le parti, non pas majoritaire, mais qui a le groupe le plus important chez les représentants
c'est
du peuple tunisien, c'est Ennahda, qui...
islamiste.
Qui prétend accoucher d'un islam démocratique. On attend.
Mais justement, est-ce qu'avec ce parti au pouvoir, est-ce que cette loi a des chances d'aboutir?
Oui,
ou est-ce que c'est un coup politique du président?
Oui, parce que c'est une coalition. Et rappelez-vous que si la charia, c'est pour ça que je commençais là-dessus, que la constitution tunisienne ne prend pas sa source dans la charia, alors que déjà Ennahda avait le groupe le plus important, c'est qu'en Égypte, Morsi, les frères musulmans, venaient d'être débarqués. Et ça a fait très peur aux musulmans d'Ennahda qui se sont dit, il va nous arriver la même chose.
Ils sont devenus un peu plus modérés, c'est ça?
Oui, ils sont devenus plus prudents.
Ouais.
Oui, la loi
Emmanuel Foulon.
Oui, la loi tunisienne qui s'appuyait beaucoup sur le droit islamique à l'époque. Maintenant, c'est bien qu'il y ait ce type d'évolution. Le symbole est très très fort, hein, que ce soit justement lui qui en ait parlé avant le débat au Parlement, qui va être sûrement très houleux, mais il y a quand même des raisons d'y croire. D'une part parce qu'il y a eu cette déclaration, d'autre part parce que pour l'instant, il y a très peu de députés qui ont vraiment pris position. Il faut savoir qu'il y a aussi une échéance électorale en 2019, donc il faudra se placer par rapport à ça.
Double échéance.
Double échéance.
Il y a la présidentielle et les législatives.
Exact. Et donc ça va être enjeu.
C'est une sorte de point de départ presque de la campagne, vous pensez?
Alors, ça pourrait l'être. Après, ça dépendra des stratégies politiques déployées, mais honnêtement, ça pourrait l'être et ça paraît assez évident. D'autant qu'il faudrait bien finir les travaux parlementaires avant les prochaines élections, ce que nous souhaiterions.
Mais ça veut dire que ça positionne quand même le débat tunisien sur des questions démocratiques.
Ah oui,
alors que c'est un pays qui a aussi beaucoup de défis à relever dans une foule d'autres domaines, notamment économiques.
Tout à fait. Et alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'il se dit dans les couloirs internationaux que le Maroc, par exemple, serait enclin à suivre cette vision tunisienne d'un droit de la femme plus évolué, entre autres sur la question de l'héritage, mais aussi sur d'autres points. Et donc, si le Maroc embraye là-dessus, moi, je n'imagine pas le Parlement tunisien faire bloc contre la proposition de loi. Mais ça va se décanter, évidemment, dans les prochaines semaines.
Ça démontre que sans mobilisation de la société civile, puisqu'il y a une grosse mobilisation de la société civile sur cette question-là, en Tunisie, on ne fait pas avancer le droit des femmes. Alors, en Argentine, pour prendre une autre comparaison, il y a eu une mobilisation aussi, alors qu'il a échoué au Sénat, mais qui avait réussi à l'Assemblée nationale. Donc, voilà, sans mobilisation,
Ce qu'il faut remarquer aussi, malheureusement, c'est qu'il y a une mobilisation des deux côtés, y compris des femmes. On a vu des femmes manifester contre l'égalité en termes d'héritage. Et ça prouve, s'il était besoin, qu'il n'y a pas de soumission de la femme sans complicité de la femme.
Mais ça prouve aussi que cette opposition des deux camps, la bonne santé, enfin,
du débat démocratique.
Du débat démocratique et de la démocratie en Tunisie.
Oui, et puis, ce que vous disiez, Judy, tout à l'heure sur le président, il part, il veut peut-être partir sur une bonne image, il veut peut-être partir sur une bonne note, où il s'est dit que c'est peut-être le moment, parce que la société tunisienne est prête à passer un cap. Effectivement, il y a les femmes peuvent être contre elles-mêmes, comme vous le disiez, Judith, mais peut-être que cette possibilité qu'ouvre le président va leur permettre de dire, bah, finalement, on va suivre. Et c'est peut-être aussi une façon de transmettre le pouvoir aux suivants et aux générations d'après, de dire que les femmes ont le droit peut-être enfin à quelque chose d'égal par rapport aux hommes.
Et le président, il est comme nous, il voit les médias, il voit aussi cette vague de migration vers l'Europe. Et on parlait tout à l'heure de l'Aquarius. Il se rend compte aussi que pour garder les Tunisiens en Tunisie, justement, la voie démocratique et aussi faire parler les gens, faire parler son peuple sur vraiment des enjeux importants pour eux, c'est sûrement encore la meilleure manière de garder les gens chez eux, parce qu'ils seront moins inépanouis ou plus épanouis, ce qui sera encore mieux.
Est-ce que vous pensez que le parti Ennahda sera obligé de voter cette loi en termes de message avant les élections?
Alors, il y a plusieurs,
est-ce que c'est une manière
plusieurs
de leur
éléments
le
qui vont dans des sens contradictoires. Ennahda a déjà fait cette concession moitié par trouille, qui lui arrive la même chose qu'aux frères musulmans en Égypte et à Morsi en Égypte avec Sissi. Et puis, moitié par opportunisme. Là, il y a un élément un peu embêtant, c'est que Ennahda a gagné les municipales au printemps, donc il se retrouve en position de force comme jamais.
Merci en tout cas à tous les quatre d'être passés dans Les Informés. L'actualité était dense. Nous avons pu aborder ces 5 débats ce soir. Nous nous retrouvons demain à 20h pour Les Informés de France Info. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Ariane Grissel pour l'info jusqu'à minuit. Tout de suite, c'est la météo.